En quittant ses disciples pour retourner auprès de son Père, Jésus leur a laissé l'instruction de faire des disciples de toutes les nations, de les baptiser et de les enseigner. Et il leur a aussi dit qu'ils recevraient une puissance, celle du Saint-Esprit, et qu'ils seraient ses témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce matin, dans notre culte avec baptême, je vous propose de nous arrêter sur l'épisode du baptême d'un eunuque éthiopien. Le récit nous est rapporté dans le livre des Actes, au chapitre 8. Un épisode qui correspond dans cette avancée du royaume de Dieu depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre, dans ce témoignage des disciples qui ont maintenant reçu le Saint-Esprit, au premier pas de l'étape qui, après celle de la Samarie, amènera ce témoignage jusqu'aux extrémités de la terre. Je vous invite à lire avec moi le récit donc de cette conversion et de ce baptême dans le livre des Actes au chapitre 8, et je vais lire les versets 26 à 39. Un ange du Seigneur adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Il a été mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie est supprimée de la terre. » L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il ordonna d'arrêter le char. Tous deux descendirent dans l'eau, Philippe ainsi que l'eunuque, et il le baptisa. Quand ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, alors que joyeux, il poursuivait son chemin. L'élan missionnaire annoncé par Jésus, commencé à la Pentecôte, s'est poursuivi à ce stade jusqu'en Samarie. En effet, Philippe, dont il est question dans notre texte, et qui était un des sept hommes mis à part pour servir aux tables à Jérusalem dans Actes chapitre 6, ce Philippe vient de se rendre en Samarie. Et c'est là, en Samarie, qu'il reçoit l'instruction d'un ange de se rendre sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Philippe obéit promptement. Et alors qu'il se trouve en chemin, l'esprit le guide vers le char de cet eunuque éthiopien. À l'époque, les hommes au service d'une reine étaient souvent castrés. C'est certainement le cas de notre homme, ici puisqu'il nous est dit qu'il était au service de Candace, reine d'Éthiopie. Le service des eunuques consistait généralement à la garde et au service des femmes dans les sérails, dans les harems, mais il y en avait quelques-uns qui occupaient des fonctions plus élevées, qui pouvaient être officiers de confiance, voire même des conseillers d'État. C'est le cas ici, certainement, pour notre personnage, puisqu'il est dit de lui que c'était un haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, le surintendant de tous ses trésors. En d'autres mots, le ministre des Finances de l'époque. C'était un personnage important. Et c'est ce haut rang qui explique très certainement que notre homme ait eu cette liberté de se rendre à Jérusalem. Pour y faire quoi ? Pour adorer, dit le texte. Nous comprenons donc que notre homme a déjà eu un contact avec la foi juive dans son pays, et qu'il est monté à Jérusalem pour adorer, vraisemblablement au moment de la fête de la Pâque. Il est maintenant sur le chemin du retour. Petite parenthèse, on peut noter ici que si la loi du Deutéronome au chapitre 23, verset 2, excluait les eunuques de l'Assemblée de l'Éternel, le cadre de la Nouvelle Alliance, comme le précise Ésaïe 56, versets 3 et 5, 3 à 5, leur permettait, comme à tout étranger, d'avoir pleinement une place dans le peuple de Dieu. Pour aborder notre texte et arriver au baptême de cet eunuque éthiopien, je vais suivre les trois questions importantes qui structurent notre texte. Et la première de ces questions est posée par Philippe quand il s'approche du haut fonctionnaire qui est assis dans son char en train de lire. Alors un char, c'était sans doute plutôt un chariot couvert, et il est en train de lire le prophète Ésaïe. Et sans doute lisait-il à voix haute, comme c'était la pratique, la coutume à l'époque. Et Philippe, au verset 30, lui dit, après s'être approché, « Comprends-tu ce que tu lis ? Comprends-tu ce que tu lis ?» Pourquoi cette question ? Tout simplement, sans doute, parce que la compréhension des Écritures est nécessaire à la foi, amène à la foi. En effet, comment croire si je ne comprends pas le contenu de la foi? Si je ne comprends pas ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce que Dieu veut? Bien sûr, je peux comprendre sans croire, mais je ne peux pas croire véritablement sans comprendre. Du moins, sans comprendre les choses essentielles de la foi, celles qui concernent le salut. Sinon, ma croyance n'est rien d'autre qu'une sorte de superstition. Bien évidemment, il ne s'agit pas de tout comprendre, c'est d'ailleurs impossible. Il s'agit avant tout de comprendre ce qui me permet de croire afin d'être sauvé. Chers amis, cette première question, comprends-tu ce que tu lis ? Nous rappelle combien nous devons chérir la parole de Dieu et chérir l'enseignement dans l'Église. Combien il est important que cet enseignement soit bien dispensé et fondé sur la saine doctrine. Combien il est important que chacun s'en nourrisse régulièrement. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, souligne que c'est pour le perfectionnement des saints que Dieu a donné à l'Église toutes sortes de ministères, toutes sortes de dons, dont les dons d'enseignement, les ministères d'enseignement. Je lis ce texte dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. C'est lui, c'est-à-dire le Christ, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Oui, Dieu a donné des ministères d'enseignement en vue de l'œuvre du service, en vue de l'édification du corps de Christ, pour le perfectionnement des saints, c'est-à-dire de chaque enfant de Dieu, pour que nous parvenions tous à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, pour que nous ne soyons pas entraînés à tout vent de doctrine et facilement séduits, pour que nous croissions à tous égards en Christ. Et cela, c'est vrai pour chacun de nous individuellement, et cela, c'est vrai aussi pour nous en tant qu'Église. Chers amis, si Dieu a voulu les choses ainsi, par le biais des ministères qu'il a donnés à l'Église, pour le bien de son peuple, ne serions-nous pas mal avisés de nous en priver ? Nous en avons tous besoin. Nous avons tous besoin de comprendre la parole de Dieu, de comprendre ce que nous lisons. Dieu n'a certainement pas donné des dons à son Église pour rien du tout. L'enseignement dans l'Église ne devrait être pour personne une option facultative. Et nous devrions tous, quand cela est possible, faire du culte, de l'étude biblique et de tout enseignement dans l'Église, une priorité de notre semaine, de notre vie. Revenons à notre texte. Quand Philippe rejoint l'eunuque, celui-ci est en train de lire le rouleau du prophète Ésaïe, et en particulier une partie du chapitre 53, où il est question des souffrances du serviteur de l'Éternel. Ce sont les versets 32 à 33. Sans doute que cet Éthiopien, cet homme, venu à Jérusalem pour adorer, a acheté ce rouleau, c'était vraisemblablement en grec, hein, en tout cas la traduction nous laisse à penser que la base était du grec. Sans doute a-t-il acheté ce rouleau en se rendant à Jérusalem. Peut-être a-t-il choisi le rouleau du prophète Ésaïe après les événements qui viennent de se passer autour de la mort et de la résurrection de Jésus, dont il a très certainement entendu parler. Et peut-être même a-t-il entendu quelqu'un faire un lien entre ce qui vient de se passer et ce qui est écrit dans ce chapitre 53. C'est peut-être pour ça qu'il est en train de lire précisément ce texte-là. Enfin, quoi qu'il en soit, notre homme n'a pas la bonne compréhension de ce qu'il lit. Et sa réponse à la question de Philippe au verset 31 en témoigne. Philippe lui a dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» Et lui répond « Comment le pourrais-je ? si quelqu'un ne me guide ?» Notre homme est conscient qu'il a besoin d'aide. Et c'est la raison pour laquelle il invite Philippe à monter sur son char pour qu'il l'instruise. Et c'est ainsi que nous arrivons à la deuxième question structurante de notre texte, au verset 34. L'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» L'enchaînement et le timing des événements dans notre texte montrent clairement que le Saint-Esprit est à l'œuvre et qu'il était en train de tout guider dans les moindres détails pour cet eunuque éthiopien. En effet, y a-t-il un texte dans l'Écriture qui était disponible à ce moment-là? Le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Y a-t-il un texte disponible à ce moment-là qui est plus précis sur l'œuvre du Christ que ce texte d'Ésaïe 53? Non. Et c'est précisément ce texte-là, à ce moment-là, quand Philippe s'approche, que l'eunuque éthiopien est en train de lire. Nous pourrions dire que Dieu a déroulé le tapis rouge pour que Philippe lui annonce l'Évangile. Et c'est ce qu'il va faire. Et au verset 35, nous lisons, « Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. » En fait, comprendre l'Écriture n'a vraiment de sens que si je comprends la bonne nouvelle de Jésus. C'est pour que nous parvenions au salut, à la connaissance de Jésus-Christ et de l'amour de Dieu pour nous manifesté en Jésus, que Dieu s'est révélé dans sa parole, que Dieu nous a donné sa parole, que Dieu l'a gardée au fil des siècles. Comprendre les Écritures, ce que nous y lisons, n'a vraiment de sens que pour nous amener à la connaissance de la bonne nouvelle de Jésus. Parce que c'est par elle que Dieu a choisi de révéler son amour manifesté en Jésus, afin de sauver quiconque croirait en lui. Il n'est donc pas étonnant que Philippe, conduit par l'Esprit, lui est tout simplement annoncé l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle que tout homme peut être réconcilié avec son Créateur par l'œuvre accomplie par Jésus. Lui qui a été mené à la croix comme une brebis qu'on mène à l'abattoir, qui a offert sa vie en sacrifice pour payer la rançon de notre péché. Alors, combien de temps a duré l'échange entre ces deux hommes? Le texte ne donne aucune précision. Quelques minutes, quelques dizaines de minutes, peut-être quelques heures, peut-être toute la journée, on n'en sait trop rien. Mais ce que nous savons par la troisième et dernière question, c'est que notre homme a compris, il a compris l'Évangile, il a compris la bonne nouvelle de Jésus. Alors, quelle est cette troisième question? Elle se trouve au verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé ?» Cette troisième et dernière question traduit que notre homme a compris ce que Philippe lui a dit de Jésus. Bien sûr, le texte est très sobre, mais nous pouvons raisonnablement assumer que si Philippe avait eu un doute quant à la compréhension que cet eunuque a de l'Évangile, il ne l'aurait certainement pas baptisé. En fait, le texte est tellement sobre que ce verset 37 qui, dans nos Bibles, est entre crochets, pour dire qu'il ne figure pas dans tous les manuscrits. Le texte est tellement sobre que ce verset 37 manque dans presque tous les manuscrits anciens, dans beaucoup des manuscrits plus récents et dans quasiment tous les pères de l'Église. Ça fait beaucoup. Et là où il se trouve, c'est sous des formes diverses. C'est-à-dire, c'est jamais exactement la même chose. C'est sous des formes diverses, et quand c'est le cas, c'est généralement, ou presque toujours, le signe d'inauthenticité. Ainsi, la quasi-totalité des commentateurs s'accordent pour voir dans ce verset 37 des mots qu'un copiste a ajoutés, qu'il a sans doute ajoutés parce qu'il s'est étonné de la sobriété du texte et qu'il a pensé qu'il fallait expliquer un peu les choses, mettre des mots, une profession de foi, pour donner de la consistance à ce baptême, pour éviter que l'on croie que ce baptême avait été fait dans la précipitation. Alors cette remarque faite, ça ne veut pas dire que ce qui est dit au verset 37 est faux. Au contraire, les mots qui sont dans ce verset 37 sont en totale harmonie avec le contexte et avec tout l'enseignement des Écritures. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été gardés. Et ils contiennent une vérité tellement importante que l'Église a choisi de les conserver malgré tout sans inconvénient. Oui, le baptême n'a de sens que si je crois de tout mon cœur, que si je crois de tout mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu avec tout ce que cela implique. Philippe va donc accéder à la demande de l'eunuque éthiopien et il va le baptiser. Il est à mon sens évident et cohérent de voir dans cet acquiescement de Philippe le signe que l'eunuque éthiopien a compris l'essentiel. Il a compris qui est Jésus. Il a compris son œuvre pour nous sauver. Il a compris la bonne nouvelle de Jésus. Il a compris et il a cru. Cru que Jésus est le Fils de Dieu. Cru que Jésus est mort et ressuscité pour son salut et pour le pardon de ses péchés. Conformément à sa demande, qu'est-ce qui pouvait empêcher qu'il soit baptisé? Simplement qu'il n'ait pas compris. Qu'il n'ait pas compris l'essentiel, qu'il ne croit pas à la bonne nouvelle de Jésus, ce qui à l'évidence n'était pas le cas. Et c'est pourquoi, quand ils arrivent à un point d'eau, l'eunuque fait arrêter le char et Philippe le baptise. La conversion et le baptême de l'eunuque éthiopien sont ainsi le premier pas de l'ouverture du royaume après Jérusalem, la Judée, la Samarie, vers les extrémités de la terre. Les trois questions qui ont amené l'eunuque éthiopien à son baptême sont d'une certaine manière devant chacun de nous ce matin, et je nous invite à y réfléchir. Est-ce que j'ai compris la bonne nouvelle de Jésus? Est-ce que je l'ai compris? Est-ce que j'ai compris que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me faire passer de la mort à la vie? Est-ce que je crois que Jésus est le Fils de Dieu? Et est-ce que je le crois de tout mon cœur? Si cela est le cas, alors rien n'empêche que je sois baptisé, si cela n'est pas le cas, si ce n'est pas déjà fait. Rien n'empêche que j'obéisse au Seigneur en passant par les eaux du baptême. Rien n'empêche que je fasse ce pas de foi, qui sera aussi un témoignage de ma foi, que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur, que je suis mort et ressuscité avec lui, et que je suis lavé de mes péchés. C'est le témoignage que Laura nous a donné ce matin. Et vous, quel est votre témoignage? Qui est Jésus pour vous? qu'est-ce qui vous empêche d'être baptisé? Je nous invite à terminer ce message en prenant quelques instants de silence où chacun peut se placer devant le Seigneur. Amen.